Littérature sans frontières. Catherine Frochon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un écrivain rare et précieux. En 30 ans, Emmanuel Dongala n'a en effet publié qu'une poignée de romans, mais à chaque fois avec éclat. Que ce soit Un fusil dans la main, un poème dans la poche, écrit à l'époque où il vivait encore au Congo, son pays natal, ou Johnny, chien méchant, puis Photos de groupe au bord du fleuve, rédigés eux aux États-Unis où il habite désormais, chacun de ses livres est une pépite qui saisit soit la douleur d'un peuple, soit l'espoir d'un continent, en tout cas la singularité des êtres et particulièrement les enfants et les femmes. Aujourd'hui, après un long silence, Emmanuel Dongala revient en librairie avec un roman étonnant qui commence d'abord par une musique. C'est en effet la sonate à Kreutzer de Beethoven qui a inspiré l'auteur, car surprise, cette œuvre a été composée pour un violoniste oublié de notre époque, un jeune garçon métis né à la fin du XVIIIe siècle et dont Emmanuel Dongala fait un portrait passionnant dans ce roman intitulé donc « La sonate à Bridge Tower » paru aux éditions Actes Sud, « Rencontre avec le maestro ». Bonjour Emmanuel Dongala.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a fasciné dans le destin de George Bridge Tower, ce musicien prodige que l'on découvre à 9 ans à Paris en 1789 ?
J'ai entendu à la radio, je crois, que en fait la sonate à Kreutzer n'avait pas été écrite pour Kreutzer. Cette sonate qui est très connue, la plus célèbre de Beethoven, en fait, ça avait été écrite pour un musicien complètement oublié aujourd'hui, George Bridge Tower, qui était mulâtre, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque pour un métis, de père d'origine africaine, enfin caribéen, et de mère polonaise. Ah, alors là, ça devenait intéressant. Je me suis dit, tiens, il faut que je creuse un peu plus le sujet, parce que, d'autant plus que jusque-là, tous mes romans, j'ai toujours écrit sur l'Afrique, hein, sur l'Afrique, ses problèmes, la corruption, la dictature, etc. Je me suis dit, bon, mais il est temps de d'écrire sur quelque chose dont je ne savais absolument rien. Et c'était là l'occasion.
Vous êtes parti à l'aventure.
Voilà, exactement.
Mais vous êtes musicien, vous, Emmanuel Dongala ?
Pas du tout. Je ne suis pas musicien du tout. Et je connaissais rien, enfin pas grand-chose en tout cas, à la musique classique. Et donc pour ce roman, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris des cours de musique, enfin ce qu'on appelle music appreciation, puisque j'étais aux États-Unis sur la période baroque, classique, romantique. Et ensuite, je me suis mis à lire beaucoup sur la Révolution française, sur Londres du XVIIIe siècle. Enfin, voilà, donc beaucoup de documentation. Et je suis allé à Vienne, à Eisenstadt, à Paris, à Londres, suivre les traces de ce bonhomme. Et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a pris 4 ans, 4-5 ans.
Georges est né d'une mère polonaise.
Oui.
Et d'un père, Frédéric, originaire de la Barbade.
Oui.
Il est donc métis. Il a grandi en Autriche.
Oui.
Il va avoir ses premiers succès en France et il va faire carrière en Angleterre. Donc, vous nous offrez non seulement un formidable roman d'apprentissage, mais aussi un passionnant panorama historique de ces années politiques clés de la Révolution française en 1789. Mmh. Parce que Georges et son père Frédéric arrivent juste en amont, en avril, mais déjà la Révolution gronde et ils vont être témoins de toutes ces émeutes et toutes ces scènes qui commencent à être violentes. Et puis c'est aussi l'évolution de la communauté noire en Europe, en passant par la place de la musique, de la littérature, des idées qui connaissent une vitalité spectaculaire, d'où d'ailleurs l'expression « le siècle des Lumières oui. ». Mais est-ce que votre propos aussi, Emmanuel Dongala, n'est pas de nuancer justement ces Lumières et de rappeler les nombreuses zones d'ombre ?
Oui, pour un romancier, c'était vraiment formidable de tomber juste à cette période-là. 1789, c'est la Révolution française, donc à Paris, c'est l'idée des Lumières, la philosophie des Lumières, les sciences qui se développent, et la musique, à l'époque, était vraiment centrale. Hein. C'est là où tous les gens d'influence se rencontraient, dans les salons, on trouvait les savants, les politiciens, les musiciens, tous les gens qui voulaient se faire connaître dans la société. Donc, à cette époque, ensuite, il y a le problème des Noirs aussi, parce que les gens oublient que les gens pensent que la présence des Noirs en Europe et en France est récente. Pas du tout, elle y était déjà. Mais souvent, quand on parle des Noirs en Europe à cette période-là, on parle beaucoup plus des domestiques, des esclaves. Or, on oublie qu'il y avait vraiment une élite noire qui était là, surtout métisse, qui évoluait dans les milieux aristocratiques, qui était bien intégrée, des gens comme le chevalier de Saint-Georges, Alexandre Dumas, le père de l'écrivain général. C'est ça qui m'a intéressé, je voulais justement parler aussi de ces gens-là. Et c'était l'époque aussi où on commençait à remettre en cause l'esclavage, le combat anti-esclavagiste. Et puis, j'ai voulu aussi montrer que le paradoxe des Lumières, c'est pas... Parce qu'en fait, les philosophes des Lumières, ils n'ont pas remis en cause la classification qu'il y avait à l'époque de Voltaire à Buffon, que les Noirs étaient vraiment au bas de l'échelle. Mais aussi, il y avait des gens extraordinaires,
comme
en même temps, comme Condorcet, Olympe de Gouges, Louise de Keralios. Donc, c'est cette époque-là paradoxale.
Restons sur cette question de l'esclavage, parce que elle est à la fois au centre de votre roman, au centre de cette époque. Et comme vous venez de le dire, Emmanuel Dongala, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Et on le voit à travers l'exemple de deux hommes. Oui. Soliman, oui. Qui est un ami de Frédéric, donc le père de Georges, ce violoniste virtuose. Deux exemples différents parce que Soliman vient d'Afrique. Il a connu l'esclavage en Afrique. Oui. Et en Amérique, même si Frédéric est né libre d'un père affranchi, on se rend compte que les méthodes, aussi cruelles soient-elles, avaient des visées totalement différentes. Vous faites le point, Emmanuel Dongala,
oui,
sur cette question.
C'est très important, cette question d'esclavage. En général, quand on parle de l'esclavage, on pense qu'à l'esclavage transatlantique, mené par les Occidentaux. Or, on oublie qu'il y avait un esclavage arabo-musulman très important. Évidemment, il n'y a pas de degré dans l'horreur, mais si on prend tout en compte, l'esclavage arabo-musulman a été plus dévastateur pour l'Afrique que l'esclavage transatlantique. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, un, l'esclavage arabo-musulman a duré 14 siècles, du 7e siècle jusqu'au début du 20e siècle. L'esclavage a été aboli officiellement en Arabie Saoudite en 1962 et en Mauritanie en 1980 et encore. Il faut pas oublier que du 7e siècle au 16e siècle, c'est-à-dire sur une période de 1000 ans, la seule traite négrière qui existait, elle était arabo-musulmane. Et beaucoup d'intellectuels africains essaient d'occulter ça pour des raisons de solidarité politique ou religieuse avec les pays arabes. Et j'ai dit que c'était plus dévastateur. Pourquoi? Parce que les esclaves africains, quand ils les prenaient un, il y avait ce qu'ils appelaient la castration pour faire des eunuques. 70 à 80% en mouraient. Et d'autre part, les belles femmes esclaves que ces arabo-musulmans prenaient, ils les mettaient dans les harems, et quand ils avaient des enfants, ils les tuaient. Donc, castration, infanticide. Aujourd'hui, on appellerait ça carrément génocide. D'ailleurs, il y a un très bon livre de historien franco-sénégalais qui s'appelle Tidiane Ndiaye, qui a écrit un excellent livre sur ça, qui s'appelle « Le génocide voilé ». Et si vous regardez aujourd'hui, regardez du côté de l'Occident, de l'Amérique, Vous voyez, il y a près de 70 millions de Noirs et de Métis. Regardez du côté des pays du Golfe, dans les zones arabo-musulmanes, il y a très très peu de Noirs, ils ont disparu. Et ça, il faut le dire, parce que l'esclavage, on pense que c'est toujours... on met l'accent que sur l'esclavage transatlantique, qui était aussi horrible. Mais l'autre esclavage aussi a existé, et existe encore. Et cet esprit-là reste aujourd'hui. Vous savez, être noir dans les pays maghrébins, c'est pas facile. Donc, même aujourd'hui, au 20e siècle, voilà, cela devait être dit. Voilà.
Vous voyez, Manuel Dongala, on a commencé cette émission, vous m'avez dit, je vais parler d'un sujet que je n'avais jamais évoqué, et en fait, on y revient, à l'Afrique.
Oui, mais tout ça, même moi, je savais pas, c'est en écrivant ce roman que j'ai appris tout ça, et ça veut dire que c'était vraiment occulté, certaines de ces choses.
Et qu'il fallait le dire.
Oui.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Emmanuel Dongala, pour parler de ce nouveau roman intitulé La Sonate à Bridge Tower, sous-titré Sonata Mulatica, parce que effectivement il s'agit de musique.
Voilà.
Comme on l'a évoqué pendant toute cette première partie, mais un roman aussi plus général sur l'émancipation qui souffle en cette fin de XVIIIe siècle. Celle du peuple noir, avec l'abolition en France en 1794, même si, hélas, et vous le rappelez, Manuel Dongala, Bonaparte va résilier cette loi. Mais c'est aussi l'émancipation d'une classe sociale, le tiers-état, tous ces gens qui n'appartiennent pas au clergé ni à la noblesse et qui vont se battre pour l'égalité des droits. Et puis celle des femmes aussi.
Oui.
Avec l'exemple d'Olympe de Gouges en tête.
Absolument.
Cette intellectuelle déterminée qui malheureusement va finir sur l'échafaud. Ça vous a plu de parler de ce grand souffle, Emmanuel Dongala ?
Absolument. C'était une époque où d'abord l'Europe se faisait. Et puis aussi où les sciences prenaient une place très importante. Vous avez des grands savants.
On les croise ici.
Oui, Laplace, Lagrange, Monge, tous ces mathématiciens.
Lavoisier,
bien entendu, Condorcet. Et puis aussi, c'était l'époque où la musique occidentale, qu'on appelle classique, commençait à vraiment se structurer avec les trois grands, Mozart, Haydn et Beethoven.
Est-ce que c'est difficile d'écrire une fiction à partir d'une réalité historique ? Est-ce que, par exemple, vous avez eu des contraintes d'authenticité ou alors vous vous en êtes affranchi ?
Non. C'est la première fois que je travaille sur un roman basé sur des faits réels. Au départ, c'était assez difficile pour moi parce que je suis chimiste. Les sciences dures, les faits sont les faits. Et à partir de ces faits que j'ai rassemblé, comment faire pour sortir de ces faits et en faire un roman sans trahir les faits. C'était ça la difficulté pour moi. Bon, et puis en écrivant aussi, je me suis régalé, j'ai retrouvé la langue française quand même, parce que c'est ces mots très beaux qu'on n'utilise plus aujourd'hui, des mots comme vide goussé, gandin, malandrin, mirliflore, des très beaux mots. J'ai adoré utiliser ces mots qui ne s'emploient plus aujourd'hui.
Toutes les coutumes de l'époque, la façon de se vêtir, ce qu'on mange, même la géographie des rues parisiennes ou londoniennes, on voit à quel point d'ailleurs les capitales sont très différentes.
Oui, j'ai très bien étudié ça, j'y suis allé, j'ai marché sur... c'était un régal pour moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de bonheur à écrire ce livre.
Donc, après Paris, Londres, nous allons à Vienne avec vous, Emmanuel Dongala, et avec Georges.
Oui.
Il a 20 ans.
Oui.
Nous sommes en 1800. Son père, hélas, ne s'est plus occupé de lui parce que c'était un homme qui, sans doute, n'a pas supporté que...
Oui, enfin, que son, le prince de Galles,
qui
deviendra le roi Georges plus tard,
s'est occupé de son fils.
Voilà.
Donc, il s'est senti un peu exclu de l'apprentissage.
Voilà, parce que c'était un père envahissant, roué, roublard, un peu flambeur.
Joueur.
Et tout, voilà, joueur. Et il avait besoin de l'argent que lui apportait son fils, et puis dépité. Il a basculé dans, paradoxalement, dans le combat anti-esclavagiste.
Et puis, il a rejoint tout ça l'ouverture.
Voilà, il a été exclu, renvoyé, chassé d'Angleterre.
Donc on arrive avec Georges à Vienne.
Voilà.
Et là, il rencontre le nouveau prodige, d'une certaine façon, qui est Beethoven. Alors, à la fois, c'est un musicien génial, mais à la fois, c'est un homme très colérique.
Voilà. Beethoven était prodige. C'était pas encore le Beethoven qu'on connaît maintenant, celui de la 9e symphonie et tout ça. Il avait juste écrit une symphonie, il venait de terminer sa 2e. Et pendant qu'il écrivait la 3e, la célèbre héroïque, ce gamin arrive vraiment tout de suite. Il y a un contact, il y a une alchimie entre les deux. Ils étaient vraiment copains comme cochons, si je peux dire. Ils sortaient ensemble, ils buvaient ensemble. Et puis, il lui a suggéré d'écrire une pièce pour qu'ils jouent ensemble. Et c'est ainsi que Beethoven lui écrit
la sonata mulattica.
La sonata mulattica, sonate mulâtre, parce que il était mulâtre, vous voyez. Beethoven avait un peu d'humour aussi. Et cette sonate a été écrite pour Georges, parce que il était vraiment brillant. Les professionnels me disent que c'est l'une des sonates les plus difficiles à jouer et que très peu d'amateurs peuvent jouer ça. Donc c'est pas peu dire.
Et
Beethoven avait un problème vraiment avec les femmes. Il paraît qu'il n'était pas beau du tout. Il était un peu noirot, sa peau mate. D'ailleurs, il y a des gens qui disaient qu'il avait des ancêtres maures ou un ancêtre noir quelque part dans sa lignée.
Bon, enfin, d'ailleurs.
Oui, j'ai un peu joué avec ça parce que.
Et il le dit avec fierté aussi, hein.
Oui, peut-être il taquinait aussi avec. Donc, bon, c'est pas sûr. Mais enfin. Pour moi, en tant que d'origine africaine, j'ai saisi ça et j'ai joué avec. Mais enfin, donc, après ce concert magnifique réussi, ils vont dans un estaminet, ça se dit encore estaminet, à force de lire du français du 18e siècle, j'utilise des mots.
C'est un café.
Un café, voilà. Dans un café ou un restaurant, ils mangent, ils boivent, parce que Beethoven était aussi très porté sur la bouteille. Il buvait beaucoup les deux. Et puis, tout d'un coup, Georges fait une remarque déplacée sur une femme...
Dont Beethoven est amoureux.
Voilà, Giulietta. Et voilà, il se fâche tout de suite. Il se fâche, il se lève, il s'en va. Et il enlève la dédicace et donne ça à Monsieur Rodolphe Kreutzer, qui était un violoniste très très connu en Europe, c'était le plus célèbre. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les violonistes travaillent sur des études des caprices pour s'entraîner. Mais Kreutzer ne l'a jamais joué. Il a dit que Beethoven ne connaissait rien à la sonate. Et Berlioz écrit que Kreutzer trouvait cette sonate inintelligible. Il n'a jamais joué. Alors, du coup, son nom est resté dans l'histoire à cause de cette sonate, parce que il est oublié en tant que compositeur, Kreutzer. Et le pauvre Brischtauer est tombé dans les poubelles de l'histoire.
Comment vous expliquez ça, Emmanuel Dongala? Comment est-ce qu'on a pu oublier un violoniste aussi brillant?
Peut-être parce qu'il n'a pas laissé de composition. Et puis aussi, vous savez, il y a beaucoup de jeunes prodiges qui, à l'âge adulte, ils deviennent quelconques, quoi, des musiciens quelconques. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que cette rencontre entre Beethoven et Georges, cette amitié a duré 3-4 mois à peine, hein. Mais le résultat, ça a été cette pièce, la sonate à Kreutzer, un chef-d'œuvre. Et ça me rappelle aussi un peu dans un autre domaine, la peinture par exemple, la rencontre de Picasso et l'art nègre, bon c'était une période de 2-3 ans, mais ça aboutit aux Demoiselles d'Avignon, ces tableaux magnifiques. Alors c'est ça quelquefois les paradoxes de l'histoire, une rencontre très brève peut aboutir à un chef-d'œuvre éternel quoi. C'est au moins cette rencontre, même si... George Brischtauer est oublié, mais c'est grâce à lui que nous avons la sonata mulattica, la sonata Kreutzer. Voilà.
Et c'est grâce à vous, Emmanuel Dongala, qu'on retrouve la mémoire de George Brischtauer grâce à ce roman que vous lui consacrez aujourd'hui et qui est absolument remarquable. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Je rappelle le titre, la sonate à Brischtauer, sonata mulattica. Un livre de Emmanuel Dongala, publié aux éditions Actes Sud.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Géopolitique, le débat.